on est dans le même système.
Oui, on le voit, rien n'a changé.
Rien n'a changé, c'est toujours voilà, les horaires mal délimités, les abus de pouvoir, l'infinitude de tout faire et la transparence d'un travail largement méprisé. Et là, on va retrouver aujourd'hui trois types d'employés de maison. On va avoir l'employé à plein temps qui va être nourri, logé. La femme de ménage, donc qui n'est pas obligatoirement logée hein, sur place et qui va venir, c'est plutôt elle qui est très très invisible puisqu'elle vient quand il n'y a plus personne. Et puis la jeune fille au pair, qui est aussi une forme de domesticité moderne, mise au goût du jour, mais finalement qui se retrouve au service de, d'une famille.
Là, tu nous as décrit différents types, justement, d'employés de maison, femme de ménage, jeune fille au pair, employée à plein temps, mais il en manque une, Camille.
Et oui, c'est la figure de la nourrice, la nanny, la nurse.
La nurse anglaise, ça fait flipper.
Ouais, la nurse anglaise, ça fait flipper. Mais voilà, c'est celle qu'on paye pour prendre soin de l'enfant. Et là aussi, on est dans un rapport singulier, puisque l'enfant, il va être un petit peu... dans un jeu de dépendance entre sa mère et sa nourrice. Certaines nourrices sont des vrais doubles de mère, hein, puisqu'on va les visiter 30 ans plus tard. D'autres vont se succéder en personnages uniques et multiformes. Alors, peut-être que le rapport aux enfants est plus gratifiant que le rapport aux adultes.
Oui.
Mais par contre, il y a un poids qui est encore plus fort, puisqu'ils vont être responsables de l'éducation. Et la mère va être responsable aussi du choix de la nourrice avec peut-être une plus grosse pression. Il y a une sorte de culpabilisation sociétale, en fait. C'est pour ça que parfois, le monde de l'employé peut paraître d'une étrangeté redoutable pour le monde bourgeois aux valeurs universalistes étriquées. Donc on va aimer un peu d'exotisme. Au XIXe siècle, on aimait la bonne de culture bretonne, la nourrice, comme tu disais, la nourrice anglaise, etc. Là, on va apprécier d'avoir une nourrice d'une autre culture, par exemple de culture arabe ou culture indienne. Alors ça peut pas paraître positif lorsqu'il s'agit d'une langue étrangère noble, parlée par exemple par la jeune fille au pair.
Ouais.
Mais négative lorsque l'enfant va faire connaissance des amis de l'employé.
Oui, on pourrait prendre l'exemple, je sais pas, t'es une jeune fille au pair française, tu vas en Angleterre, tu parles français aux enfants de la famille, il y aura pas de problème.
Ouais.
Si t'es franco-algérienne, si tu leur parles algérien, là, ça sera peut-être un peu moins bien vu, on peut supposer.
C'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec ce très bon roman de Leïla Slimani, Chanson douce, hein, où on a une figure de la nounou assez flippante. Mais la famille est flippante aussi. Elle entre dans la cuisine et allume la lumière. La pièce a l'air encore plus propre que d'habitude. Il y flotte une forte odeur de savon. La porte du frigidaire a été nettoyée, rien ne traîne sur le plan de travail. La hotte ne porte aucune trace de graisse, les poignées des placards ont été passées à l'éponge. Et la vitre, en face d'elle, est d'une propreté éclatante. Myriam s'apprête à ouvrir le frigidaire quand elle la voit. Là, au centre de la petite table où mangent les enfants et leurs nounous. Une carcasse de poulet est posée sur une assiette. Une carcasse luisante, sur laquelle ne reste pas le moindre bout de chair, pas la plus petite trace de viande. On dirait qu'un vautour l'a rongée, ou un insecte entêté, minutieux. Une mauvaise bête, en tout cas. Elle fixe le squelette marron, son échine ronde, ses os pointus, la colonne vertébrale lisse et nette. Les cuisses ont été arrachées, mais les ailes, tordues, sont encore là, les articulations distendues, prêtes à rompre. Le cartilage luisant, jaunâtre, ressemble à du pu séché. À travers les trous, entre les petits os, Myriam voit l'intérieur du thorax, noir et exsangue. Il n'y a plus de viande, plus d'organes, rien de putrescible sur ce squelette, et pourtant, il semble à Myriam que c'est une charogne, un immonde cadavre qui continue de pourrir sous ses yeux, là, dans sa cuisine. Elle en est sûre, elle a jeté le poulet ce matin même. La viande n'était plus consommable. Elle allait ainsi éviter à ses enfants d'être malades. Elle se souvient très bien qu'elle a secoué le plat au-dessus du sac poubelle et que la bête est tombée, entourée de graisse gélatineuse. Elle s'est écrasée dans un bruit sourd au fond de la corbeille et Myriam a dit « Burk ». Cette odeur, au petit matin, l'a écœurée. Myriam s'approche de la bête qu'elle n'ose pas toucher.
Cela ne peut pas être une erreur, un oubli de Louise. Encore moins une plaisanterie. Non, la carcasse sent le liquide vaisselle à la menthe douce. Louise l'a lavée à grande eau, elle a nettoyé et elle l'a posée là, comme une vengeance, comme un totem maléfique.
Cosette de Boudoir vous propose une autre histoire des domestiques avec l'émission Remue-ménage.
Moi, j'aime beaucoup ce roman parce qu'on voit vraiment ce piège affectif des relations dites amicales entre l'employé de maison et ses patrons. On a une relation patron-domestique qui fascine et qui peut aussi effrayer par son ambivalence, puisque ça oscille entre distance et intimité, harmonie et violence, loyauté et rébellion.
Oui, oui. Sur ces rapports-là, Camille, on pourrait citer pas mal de films. Tu m'as cité la série d'Antin Abbé. Il y a aussi le film Parasite, le film coréen qui a eu tu vois, son beau succès. Et je voudrais revenir sur le film de Jean-Claude Guiguet, Les Bonnes Manières. C'est un peu les petites perles rares du cinéma français. Et ça revient justement sur les rapports entre un employé de maison et sa riche maîtresse. Et finalement, on voit les tensions qui se dégagent a priori, alors qu'elle est bienveillante avec lui, mais finalement le domestique lui rejette fortement cette domination et à un moment tout craque. Et vraiment, voyez Les Bonnes Manières, c'est un très très beau film.
Et oui, parce que moi j'ai retrouvé cette idée-là dans le témoignage d'une domestique dans ses mémoires où elle dit en fait quand je me familiarise avec mes patrons, je peux plus revendiquer. Il n'y a plus ce rapport de classe. Et elle dit, il faut que je le garde, parce que sinon je ne peux pas améliorer mes conditions de travail.
Alors ça, je pense que chacun peut le vivre dans le monde du travail, mais comme là, on est toujours dans le monde de la domesticité, c'est la même chose, mais puissance 1000.
Ouais, c'est exact. Et puisqu'en plus, t'es dans l'univers intime, etc.
Donc, réussir à garder ses distances alors que t'es dans la cuisine des gens, c'est pas facile.
Complexe.
Cosette de Boudoir vous propose une autre histoire des domestiques avec l'émission Remue-ménage.
La dernière fois, on parlait des corps dans les étapes de recrutement. Rien n'a évolué depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que la patronne va porter attention au corps et aux qualités morales qu'il est censé refléter. Donc elle va scruter les attributs corporels, la manière de se vêtir, de se mouvoir. Il ne faut pas que sa domestique ait une apparence trop sexualisée, parce qu'on est encore dans ce fantasme des relations de séduction et d'adultère. On n'a qu'à voir le nombre de films porno qui mettent en scène des bonnes. Ouais. Encore aujourd'hui.
Ouais, particulièrement au Japon.
Ouais, puisque le costume de soubrette a une dimension érotique au Japon.
Ah, mais vraiment forte, quoi.
Ouais. C'est même, je pense, c'est même une catégorie de films porno, quoi.
Oui, 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 tout à fait. C'était Mama Was a Kitchen Girl, un hymne, un chant de lutte, justement, qui rend hommage aux à celle qui brique.
Ouais, et notamment à toutes ces domestiques racisées, puisque on parlait du recrutement, et en fait, lorsqu'on analyse ces étapes de recrutement, on s'aperçoit qu'il y a souvent des assignations raciales à des qualités de domestiques. C'est-à-dire, il y a des stéréotypes racistes qui sont véhiculés sur les domestiques issus de l'immigration. C'est-à-dire, par exemple, les Arabes sont de bonnes cuisinières, les Ivoiriennes de bonnes nounous. Et donc, ces clichés vont parfois discriminer les domestiques entre elles, ou à l'inverse, elles vont jouer de ces clichés-là, elles vont performer leur culture pour obtenir tel ou tel poste. Elles vont surjouer leur personnage.
Mmh, puis là aussi, je pense que c'est des clichés qui ont la peau dure, certainement.
Mmh. Oui, parce que les riches attendent que leurs domestiques incarnent une certaine culture, mais pas de façon trop voyante. Hein. Et puis là aussi, on retrouve ces préjugés raciaux, hein, l'odeur désagréable, le corps qui fait sale, la mauvaise hygiène, qui sont souvent attribués à des domestiques qui sont d'origine d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine. En fait, on est encore sur des imaginaires post-coloniaux.
Clairement, mais en même temps, si tu te souviens, dans l'émission d'avant, on disait en fait la même chose des pauvres.
Oui, c'est ça.
Enfin, tu vois, voilà. C'est aussi un regard de classe, en fait.
Oui, t'as les deux, en fait,
qui sont mêlés.
Qui sont mêlés. Et tiens, d'ailleurs, la dernière fois, on parlait qu'on changeait le prénom de la bonne bretonne pour que ça fasse plus
Marie,
voilà, hein, plus français, plus bourgeois. Mais c'est exactement pareil avec le prénom des domestiques issus de l'immigration, qui va être changé parfois au profit d'un prénom plus français, moins musulman, plus facile à prononcer, qui ressemble à quelque chose. Parfois, c'est même la domestique qui va se présenter sous un prénom plus français.
Comme ce que tu disais, quoi. Finalement, tu joues de ces clichés pour essayer d'en tirer un maximum de profit, en fait. Mmh. Enfin, certainement. Hein.
Et ça se retrouve un petit peu partout, puisque là, je vais vous amener dans un roman Cœur de Sahel, qui se passe au nord du Cameroun, où on a une jeune fille, Faïdé, qui est envoyée comme domestique, elle a 13-14 ans, dans une famille bourgeoise de la ville. C'est la première fois qu'on lui fait des remarques sur son nom. La première fois aussi qu'elle fait le rapprochement avec la signification qu'il pourrait avoir. Faïdé, comme une trouvaille, pourquoi sa grand-mère a-t-elle décidé de lui donner un nom aussi étrange? Personne d'autre au village ne le porte. Elle s'en est rendue compte depuis longtemps, mais n'y avait jamais prêté attention avant aujourd'hui. Peut-être y a-t-il une explication, comme semble insinuer cette femme? C'est un nom du village. Elle s'appelle aussi Marie pour l'église et Fanta, ajoute Sfrafata, en improvisant un prénom plus facile à retenir pour ces gens de la ville qui méprisent tout ce qui leur paraît différent. Fanta, c'est surtout le prénom que portait une ex-co-épouse répudiée récemment. Il peut donc être l'occasion de se moquer de celle qu'il ne vaut pas mieux que leur domestique. Les jeunes filles désireuses de devenir domestiques se choisissent souvent un prénom courant, familier pour les citadins. Dans le cas où ils estiment que leur nom d'origine est compliqué à retenir ou trop barbare, le patron n'hésite pas à les renommer à sa guise. Aussi, est-ce devenu une règle de se choisir soi-même un nom qu'on garde tant que l'on travaille en ville? Mais il arrive qu'on s'habitue tant à ce pseudonyme qu'on finit par s'identifier complètement et qu'on délaisse son prénom d'origine. « Je préfère t'appeler Faïdé. C'est un joli nom, très amusant. »« Merci, Tantine, » répond Faïdé, flatté par un compliment qui n'en est pas forcément un. On dépoussière l'histoire de la domesticité avec cette émission Remue-ménage. Donc là, on voit bien aussi ce changement de prénom. Hein. Donc Faïdé, ça veut dire trouvaille. Et sa mère l'a appelée comme ça parce que sa mère avait été aussi placée comme domestique. Elle avait été victime d'un viol et Faïdé est l'enfant de ce viol-là. Donc oui, toujours ces histoires de violence encore aujourd'hui, hein, avec du harcèlement, des abus sexuels, mais qui sont très peu renseignés dans les dernières enquêtes sociologiques et ça vaudrait le coup vraiment d'y travailler. On a aussi des violences physiques, des violences d'humiliation, des atteintes à la pudeur. Vraiment, les domestiques sont des proies sexuelles car elles travaillent dans l'intimité des patrons et il faut sans arrêt qu'elles se méfient des collègues et des patrons. Pour preuve, hein, l'agression de Nafissatou Diallo, hein, femme de chambre au Sofitel, agressée par DSK. Et le petit relativisme français du troussage de domestiques On s'en rappelle.
Oui, Jean-François Kahn, on va le citer, on va se rappeler de lui quand même. Citons son nom, rendons à César ce qui est à César, troussage de domestique.
Et d'ailleurs, Christine Delphi avait fait un ouvrage collectif publié en 2011 de 22 textes féministes suite à cette petite citation. Voilà, histoire de replacer un petit peu les choses. Donc on voit bien, il y a toujours cette pénibilité du travail.
Même avec les outils d'aujourd'hui, Camille, on le voyait tout à l'heure en parlant justement de l'arrivée des appareils ménagers, ça reste pénible le travail de ménage.
Oui, douleur au dos, tension musculaire, maux de tête, repas en décalé. On sait que c'est un des métiers les plus exposés aux accidents du travail et aux troubles musculo-squelettiques. En plus, la peau est sans arrêt soumise aux produits chimiques.
Tout à fait.
Et donc, c'est souvent des douleurs et des fatigues qui sont très difficiles à verbaliser puisqu'il aurait presque interdit de se plaindre. Mmh. Et on joue toujours ce sentiment d'être indispensable. Et en plus, on a l'impression d'être invisible. Je vous rappelle l'expression « être meuble », ce qui signifie rester discrètement posté dans un coin pendant que les patrons reçoivent de la visite. Mmh. Mais t'es toujours là. On peut rappeler que c'est quand même une des seules professions où il n'y a pas d'inspection du travail.
C'est vrai qu'il y en a peu à la radio aussi, mais bon, c'est vrai que c'est moins d'enjeux, quoi.
Ouais. Et surtout, c'est qu'on a des employeurs qui ont le capital économique, culturel et social qui leur permet de contourner les lois sans souci.
Soit Jérôme Cahuzac, le mec qui était ministre du budget, qui avait un compte en Suisse et tout. En fait, il a attiré les soupçons de Mediapart à la base pour une affaire de travail dissimulé. Le mec employait une femme de ménage sans papier qu'il rémunérait 250 euros par mois en liquide pour 40 heures de travail par semaine.
Voilà, donc pas d'inspection du travail. Pareil, la dernière fois, on avait parlé des fameux logements du sixième étage. Alors, le sixième étage n'existe plus, hein, puisque les bourgeois sont remontés dans les étages de maison pour bénéficier de plus d'éclairage, de plus de lumière, etc.
Ouais, et puis, on peut les louer hyper cher aux étudiants aussi, du coup.
Voilà, tant qu'à faire. Mais en fait, la chambre de bonne est descendue au rez-de-chaussée ou au premier en communication avec la cuisine. Et ça, on le voit bien avec la généralisation de l'ascenseur qui va déplacer l'espace domestique. Surtout dans le 17e, dans le 7e et dans le 8e, les chambres de bonne sont vraiment au rez-de-chaussée et l'ascenseur ne s'arrête même pas au premier, par exemple. Ouais. Là aussi, où il pourrait y avoir des chambres de bonne, dans certains hôtels particuliers. Alors, parfois, c'est un studio dans le domaine ou un appartement dans la rue d'à côté. Mais cette proximité va continuer de réduire le temps de loisir. Hein. On est sur le même cas de figure qu'au 19e. Cosette de Boudoir brûle son tablier et fait un remue-ménage pour une émission sur l'histoire des bonnes. De quoi rêvent nos domestiques? Parce que là, vu le portrait sombre de leurs conditions de travail qu'on vient de brosser, on peut se demander, voilà.
Mais moi, je me dis, ils vont rêver, Camille, de ce qu'ils ont sous les yeux.
C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de côtoyer des personnes au quotidien qu'on perçoit au-dessus de soi. En travaillant pour eux, on a l'impression d'avoir un petit peu de cette supériorité de richesse, de position sociale, de codes sociaux, de culture, etc.
Comme tu nous le disais, finalement, quand tu es recruté, tu es choisi aussi. Donc, tu es sélectionné toi aussi pour tes meilleures manières, etc. Donc, tu vas t'identifier à eux.
Ouais, mais je crois qu'il faut refuser de travailler.
Thank you.
sexy sushi dans Cosette de Boudoir. Je refuse de travailler. Une bonne illustration pour cette émission Remue-ménage.
Comment fabrique-t-on le consentement du domestique ? En lui faisant miroiter une ascension sociale. Ce qui est souvent vrai, parce que tu vas au fur et à mesure monter toi aussi dans la hiérarchie des domestiques. Et puis, des sentiments gratifiants d'utilité et de réussite. En fait, on a une sorte d'attachement qui forge une loyauté au-delà d'un simple professionnalisme. Parce qu'il y a des rétributions matérielles, il y a certes les cadeaux, comme on a vu.
Les miettes.
Les miettes, et symboliques. Et donc, il va falloir construire son réseau social pour se placer et se tenir au courant des opportunités. Donc, tu as vraiment des filières de recrutement. Hein, pour trouver une bonne place. Après, il va falloir s'armer pour négocier ses conditions de travail. Et souvent, c'est un bouche à oreille. Mais encore aujourd'hui, le Comité contre l'esclavage moderne constate que la domesticité est l'un des secteurs d'emploi où les situations d'exploitation sont les plus courantes. Beaucoup de domestiques vivent leurs conditions comme transitoires. C'est qu'une étape pour faire autre chose, pour mettre des sous de côté, pour poursuivre mes études, etc.
Mais ça dure généralement.
Oui, et donc il y a un turnover quand même de 3 ans en moyenne. Le temps de mettre des sous de côté, etc. Et parfois, certaines vont glisser vers les collectivités ou les entreprises et s'assimiler à un monde de travail salarié plus voilà. Normatif. Quoi. Mmh. L'abondance et la diversité des gains économiques peuvent être des motivations pour servir les riches. Comme on l'a dit, l'importance d'avoir un réseau. Puis, c'est un capital relationnel. En fait, tu as possibilité de décrocher plus tard des postes mieux placés et mieux payés. En fait, à chaque fois, tu dis « Allez, je vais faire encore un an de plus, j'aurai peut-être la chance de travailler pour un peu plus riche, etc. » Ce qu'on appelle l'illusion de la domesticité. C'est être pris au jeu et pris par le jeu et de croire que le jeu en vaut la chandelle. Mmh. Chez les très riches, les domestiques diplômés sont souvent issus de l'hôtellerie-restauration. Mmh. Donc voilà, qui ont un certain niveau, un certain bagage.
Mais c'est des métiers de service.
Enfin, voilà.
De fait.
Notamment, ce rêve d'ascension sociale peut être très marqué chez les domestiques racisés d'origine populaire, voire être perçu comme une revanche sur la vie.
Oui. Ouais. Je comprends bien ce que...
Et puis, ça permet aussi des apprentissages culturels, sociaux, les codes, les règles de savoir-vivre, certaines logiques économiques. Certains vont acquérir des connaissances dans des domaines très particuliers et l'impression de vivre par procuration, notamment l'utilisation du « on » ou du « nous ».
Ou Camille, quand tu es au service des très riches, ils voyagent à l'étranger, ils emmènent leurs domestiques. Donc toi, tu vas pouvoir voir du pays un peu.
Eh bien, c'est ce qu'on retrouve chez Lydia Léché, hein, qui, elle, a travaillé plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années comme domestique et qui écrit ses mémoires aujourd'hui. Et voilà ce qu'elle nous raconte dans son livre « Bienvenue chez les riches ».
Oui, la richesse est une drogue violente qui peut vite tourner la tête. Il est si facile de s'habituer au beau, vivre dans un endroit magnifique, dans un cadre d'exception. Ce n'est pas anodin, on y prend goût. Beaucoup en viennent même à s'identifier à ses possessions. Le château devient leur château, le domaine leur domaine. Ils tirent fierté de la fortune de leur maître comme si elle était la leur. Et on retrouve parmi nos collègues un certain snobisme. Celui d'avoir servi chez plus riche, plus chic, plus noble. Certains se vantent d'avoir été au service de tel patron du CAC 40, tel grand financier, telle star du showbiz, comme si la splendeur de la demeure, la taille du domaine, tous ces signes extérieurs d'opulence rejaillissaient sur leur propre personne.
On retrouve tout à fait cette illusion de la domesticité. Puisque comme les grandes fortunes sont loin d'avoir disparu, on a encore la persistance d'une domesticité plurielle, hein, qui peut être polyvalente ou spécialisée. On a encore des gouvernantes, des femmes de chambre, des cuisinières, des nannies, des lingères. On a encore des majordomes, des valets, des chefs de cuisine, des chauffeurs, qui sont toujours invisibles, toujours à l'abri des regards et qui travaillent en silence. Les riches ont acheté le droit d'exercer leur domination chez eux, sans distance, sans répit, en modelant le corps et les esprits des domestiques, car ils sont sujets de hiérarchie de pouvoir familial.
Ouais. Mais peut-être que finalement, maintenant, c'est un pouvoir que même les classes moyennes ont, avec toute l'économie de la flemme, Uber, tous ces trucs.
Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi, on peut souligner une contradiction, hein, parce qu'il y a des possibilités d'ascension sociale parfois fulgurantes pour les domestiques. Mais ces grandes fortunes maintiennent néanmoins l'ordre social, avec des hiérarchies de genre et de race. On reste néanmoins dans un système libéral et capitaliste qui assoit les inégalités sociales, raciales, sexuées, sous couvert d'une réussite et d'une liberté individuelle. Il y a un peu aussi dans cette illusion de la domesticité une sorte de transfuse de classe. On a envie de s'approprier les règles d'un entre-soi. C'est un peu le phénomène du cheval à bascule. On gagne en aisance chez les riches et on arrive à composer avec les différents univers de socialisation puisqu'on sait s'adapter après à n'importe quelle classe sociale.
Ouais. C'est ce que tu appelles l'exploitation dorée ?
Oui, cette logique de la surenchère qui consiste à acheter au prix fort l'investissement au travail illimité des domestiques, en fait dans une sorte de super paternalisme. Et ça, c'est un peu inédit par rapport au 19e siècle. En contrepartie des services illimités, les grandes fortunes entretiennent les domestiques par un salaire, un logement et la prise en charge de divers frais. Tu as des domestiques qui disent que si leur patron n'avait pas payé les frais médicaux, ils n'auraient jamais pu se soigner. Parce que personne issue de l'immigration, parfois sans papier, etc.
D'accord.
Ou avoir accès à tel ou tel spécialiste.
Ouais. Ouais.
Pour conclure finalement sur cette émission sur la domesticité, sur l'histoire de la domesticité, ça pourrait être de bons emplois, et pas des emplois dévalorisés, épuisants, etc. Si les riches le décident, tout simplement. En fait, c'est eux qui décident de l'espace des possibles. Après, on peut toujours...
Les aider à réfléchir décider. Sur la question. Quoi.
Voilà, enfin, voilà. Ouais. Historiquement, on sait le faire, ouais. Donc on peut toujours le faire.
Ouais. On a su le faire, ouais.
On a essayé de...
T'as l'appel à la révolution, comme ça, c'est...
Ben oui, parce qu'en fait, ici, on parle bien d'une condition collective, de celle des classes populaires, de celle des femmes et de celle des personnes racisées. Et là, c'est important aussi qu'elles aient toute leur place et une place égale dans la société.
Bon, je vois que tu nous lances des petits appels à la révolution. C'est vrai que le climat social n'est pas du tout tendu en ce moment. Je pense que tu seras peut-être écoutée, Camille.
En tout cas, cette émission a été préparée avec l'exploitation domestique de Christine Delphi, Servir les riches d'Alizée Delpert et Bienvenue chez les riches de Lydia Léché.
On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Cosette de Boudoir sur les réseaux. Je te dis à très bientôt.
À bientôt, et puis là, cette fois-ci, je ne monte plus au 6e étage, mais je redescends au rez-de-chaussée.
Très bonne nuit à toutes et tous.
Bonne soirée.
Thank you. Thank you. chemin est devenu bien court, le chemin est bien fini. À peu touché le dorsal, au senti que tu respires l'été, et à travers ces périodes, tu n'es pas venu à au district où il y a sentito che la commozione mi saliva da cuore. E avevo voglia di gridare e svegliarti, avevo voglia di gridare che la tua stanchezza era troppo male fonte di un'ombra, la pelle delle tue braccia e della tua bocca e io la sentivo tiepida. Volevo passarti sopra le labbra, volevo ma il pensiero di poter turbare il tuo sogno e di averti ancora sveglia tra le mie braccia, mentre attendevo, preferivo averti così, come una cosa che nessuno poteva togliermi. Questo era il piccolo miracolo di un ritiro, sentire per la prima volta che tu mi appartenevi, non solo in quel momento, e che la notte ti portava per sé, e che la notte accanto a me, portando del tuo sangue, dei tuoi pensieri, della tua volontà, che si confondeva con me. Per un attimo ho capito quanto ti amavo, ed è stata una sensazione così intensa che ne ho avuto gli occhi pieni di lacrime. Thank you.
era perché pensavo che questo non dovrebbe mai finire, che tutta la nostra vita dovrebbe essere per sentirti non mia, ma addirittura una parte, ma addirittura una cosa che respira e che niente potrà distruggere nella mia torpida indifferenza e nella abitudine che vedo come l'unica minaccia. E poi ti sei svegliata e sorridendo ancora nel sonno mi hai baciato e ho sentito che non dovevo temere niente, che noi saremo sempre come in quel momento, uniti da qualcosa che è più forte di chi lei va.
Thank you. y a trois déserts au soir.
Let's go.